France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors juste une petite parenthèse dans cette actualité chargée, peut-être le savez-vous, mais aujourd'hui le CSA a annoncé le nom des 6 candidats à la succession de Mathieu Gallet pour diriger Radio France. Alors nous sommes un peu déçus, en fait, faut le dire, puisque le gendarme de l'audiovisuel n'a pas retenu la candidature de Charline Vanhoenacker, Guillaume Maurice et Alex Vizorek. Non, le CSA a préféré la candidature de 6 humoristes. La seule candidature sérieuse, on n'a pas tellement compris en fait ce qui se passait, donc c'est à suivre et rendez-vous le 14 avril, et eux ils ne viennent pas pour la ricane, pas du tout, et ce soir les informés de France Info reçoivent Audrey Goutard, bonsoir,
bonsoir,
de la rédaction de France Télévisions, Éric Métou, bonsoir,
bonsoir,
de L'Express, Cécilia Gabizon, bonsoir, de Media Makers. Alors qu'est-ce que c'est que Media Makers, Cécilia?
Alors Media Makers,
je sais à chaque fois je m'en demande, mais est-ce que c'est important?
Merci Jean-Mathieu, c'est un incubateur de médias, c'est-à-dire en gros un endroit où on aide des gens à monter leurs médias, à monter leurs projets et à garantir en fait de la diversité et de la création dans les médias. Voilà. Alors en ce moment justement, je fais ma petite promo.
Allez-y.
C'est le moment de déposer vos candidatures. Si vous avez une idée de média ou une technologie qui sert les médias, c'est en ce moment sur mediamaker.fr.
Mediamaker.fr. Et puis nous avons également André Berkoff. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Journaliste, écrivain et même sur une web TV maintenant qui s'appelle La France Libre. Et ce soir, alors, le menu risque d'être un peu mouvant. On devrait parler normalement de mai 68, besoin de commémoration, de Marlène Schiappa également, de ces grèves qui s'annoncent demain. Mais pour l'instant, dans les informations de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors aujourd'hui, un peu partout en France, c'était justice morte. Vous savez, les professionnels du barreau protestent contre la future réforme de la justice. Partout en France, sauf à Nanterre, en fait. Hein, c'est ballot. C'est là, dans la préfecture des Hauts-de-Seine, que se trouve l'office anticorruption, où les enquêteurs ont interrogé, depuis hier matin, Nicolas Sarkozy. Après la pause dodo chez lui, l'ex-président est retourné ce matin à Nanterre pour répondre aux questions sur un éventuel financement libyen de sa campagne de 2007. Une garde à vue qui s'est arrêtée, il y a quelques minutes, même une heure à peu près. Actuellement, les juges délibèrent. Au niveau politique, depuis hier, les Républicains font bloc derrière leur ancien chef. Et ce matin, certaines s'étonnent même de cette super production, Jean-Pierre Raffarin.
J'ai décidé de ne pas avoir de doute. D'abord parce que présomption d'innocence, mais surtout parce que ce que je trouve de plus inquiétant ici, c'est que dans les affaires politiques, notre justice ne semble pas sereine. La justice doit être sereine. Mais pourquoi tout ce spectacle? Pourquoi cette interrogation s'il a passé la nuit dans une cellule ou je ne sais quoi? Pourquoi tout ce climat? Comme si on voulait faire pression un peu sur l'événement. La justice doit être sereine. Dans les affaires politiques, la justice apparaît nerveuse. Et ça, c'est pas bon pour la République.
Voilà, Jean-Pierre Raffarin ce matin sur France Info. Alors Audrey Goutard, on a appris donc que c'était la fin de la garde à vue pour Nicolas Sarkozy. On ne sait pas maintenant ce qui va se passer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Nanterre?
Alors, ce que l'on sait, c'est que les trois juges sont déplacés. Donc, vous savez, le juge principal et le juge Tourneur, qui depuis le début suit cette affaire, ils se sont déplacés à Nanterre, ce qui est tout à fait incongru, mais ça n'est pas le bon mot, c'est tout à fait rare,
oui.
Effectivement. Et ils sont actuellement avec les policiers, avec les enquêteurs, qui ont entendu pendant ces longues heures, vous l'avez dit, après plus de 20 heures de garde à vue, l'ex-président. Et donc, effectivement, ils sont en train de regarder quels sont les éléments pour ou non mettre en examen Nicolas Sarkozy. Alors c'est ce que l'on sait, si vous voulez, en deux mots, c'est que jusqu'à ces gardes à vue, ce que l'on savait, c'est que pour l'instant il y avait des témoignages, mais aucun élément probant démontrant qu'il y avait eu circulation d'argent. Est-ce que les gardes à vue garde à vue du président et l'audition de Brice Hortefeux ont apporté d'autres éléments qui permettraient une mise en examen? C'est pour l'instant effectivement la réponse que nous attendons tous.
Juste un dernier point de justice, Audrey Goutard. Brice Hortefeux, on a parlé d'un statut donc d'auditeur libre.
Absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire auditeur libre, il risquerait quelque chose ou pas? Ou auditeur libre, ça veut dire quoi en fait?
En fait, c'est depuis 2014, il y a effectivement une évolution du statut et il y a cette possibilité de ne pas être placé en garde à vue, mais d'être entendu sur ce statut-là d'audition libre. Ça veut dire que C'est exactement le même principe qu'une garde à vue, mais effectivement, il y a quelques. C'est plus souple, c'est moins plombant,
d'accord,
si je veux
dire. D'accord, moins contraignant.
Moins contraignant, etc. Mais voilà, c'est plus de la terminologie, honnêtement, qu'une vérité. Alors, certains disent qu'on aurait pu entendre Nicolas Sarkozy, effectivement, sur le même statut.
En éditeur libre. André Bercoff, juste votre avis sur ce qu'on a entendu tout à l'heure. Jean-Pierre Raffarin, lui qui parle de spectacle, à propos de cette garde à vue, Nicolas Sarkozy.
Il a dit que c'est une justice nerveuse, une justice théâtrale.
Pourquoi ?
Cette histoire de garde à vue est je dis pas une vaste farce, mais c'est un spectacle. C'était vraiment un côté mis en examen chaud. Parce que, en fait, je vais vous dire pourquoi. La garde à vue est aussi faite parce qu'on veut pas que la personne s'en aille. On veut pas que la personne profite d'un moment d'inattention ou autre pour se faire la malle. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est qu'il est rentré quand même chez lui. C'est pas rien d'être rentré chez lui. Je ne sais pas quel avocat, je crois que c'est Dupond-Moretti ce matin, qui disait qu'il n'avait jamais vu en 30 ans de pratique d'avocat une garde à vue qui s'arrêtait pour que la personne, quelle qu'elle soit, c'est pas parce qu'il est président de la République, rentrait chez lui, rentrait le matin. En fait, on aurait pu l'entendre en lecteur libre. Alors je ne sais pas, je ne parle pas de ce qu'on va découvrir, il est peut-être coupable ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est que visiblement, ça a été fait pour le show.
Audrey Goutin.
Non, en fait, l'intérêt de le laisser rentrer chez lui, c'est que vous comprenez bien que ça permet d'économiser des heures de garde à vue. C'est-à-dire que c'est pas simplement du confort pour l'ex-président, c'est avant tout lorsque vous le maintenez sous le statut de la garde à vue, même quand il passe une nuit en geôle, c'est décompté comme une garde à vue.
D'accord.
Là, du coup, en interrompant la garde à vue, etc.,
arrêté,
le compteur s'est arrêté et recommence. Donc ouais, ça donne effectivement.
Oui,
techniquement, c'est ça. Et il y a eu d'autres exemples, notamment Claude Guéant ont été entendus comme on a vu leur garde à vue interrompue de la même manière.
Éric Métou, est-ce que ça vous a choqué comme certains que ça s'interrompe cette garde à vue, que ça reprenne parce que c'est un ancien président de la République, ça peut aussi avoir un traitement particulier ?
Non, je vois pas ce que ça peut avoir de choquant à partir du moment où ça ne remet pas en cause la procédure et que effectivement il va pas partir en Belgique pour échapper à la justice française. Non, je trouve pas ça très choquant. Et puis le fait que ce soit un président de la République et qu'on le traite pas exactement comme un justiciable ordinaire. Pour le coup, pourquoi pas non plus.
On va continuer, bien sûr, à en parler, puisque c'est la fin de la garde à vue de Nicolas Sarkozy. On attend maintenant des suites, à savoir ce qui peut se passer. L'info à 20h10, c'est Diane Ferschit.
Et après deux jours de garde à vue, Nicolas Sarkozy présenté au juge ce soir. Trois juges d'instruction, ils sont en charge de ce dossier sur des soupçons de financement libyen de la campagne de l'ex-président en 2007. Reste à savoir quelles seront les suites données à cette affaire. Nicolas Sarkozy est déjà mis en examen dans deux autres affaires en cours. Une très forte mobilisation demain, c'est ce que prévoit Philippe Martinez, le leader de la CGT. Il estime qu'il y aura 140 manifestations partout en France, une mobilisation de la fonction publique, des retraités, des cheminots. Le trafic SNCF est déjà perturbé ce soir. Seuls 40% des TGV sont prévus pour demain. Comptez également un TER sur deux. Les contrôleurs aériens en grève également, avec près d'un tiers des vols annulés dans les aéroports parisiens. Le gouvernement se dit extrêmement déterminé à poursuivre les réformes. Le Conseil constitutionnel donne son feu vert aux ordonnances sur le Code du travail. Il a validé l'essentiel du texte, notamment le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Les sages avaient été saisis par des députés de l'ensemble de la gauche. Au Texas, un jeune homme soupçonné d'être à l'origine de la série de colis piégés s'est suicidé. Il s'est fait exploser dans sa voiture. Ces bombes artisanales ont fait deux morts et plusieurs blessés. Les forces de l'ordre estiment qu'il est encore trop tôt pour relâcher la vigilance. Elles craignent l'existence d'autres colis piégés qui n'auraient pas encore été découverts.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Nicolas Sarkozy est donc sorti de garde à vue et désormais tout le monde attend, puisque les juges sont réunis, de savoir s'il y aura une suite ou non à cette garde à vue. Cécilia Gabizon, c'est vrai qu'il y a eu, on a entendu les Républicains, tout le monde faisait bloc, avec toujours la même défense, cet acharnement. Voilà, l'acharnement judiciaire, c'est une défense assez classique.
Oui, classique. Mais en l'occurrence, qui peut fonctionner, parce que comme cette affaire est compliquée, non pas à comprendre sur l'idée qui sous-tendrait tout ce dispositif, qui serait qu'en gros Kadhafi aurait payé la campagne de Sarkozy, mais à prouver, parce que ceux qui accusent, on va dire ceux qui témoignent, sont en fait tous assez versatiles, ont changé maintes fois de version, et jusqu'à présent ça n'a pas permis de bâtir une accusation suffisamment solide. Donc ils ont tout à fait beau jeu de dire que c'est un acharnement, parce que tant qu'il n'y a pas de choses concrètes, et si à la fin ça finit par un non-lieu, ce qui est tout à fait possible, ils auront défendu ça. Si par hasard Nicolas Sarkozy est mis en examen, ils pourront toujours continuer avec la thèse de l'acharnement. Mmh. C'est ça qui est quelque part est bien dans cette thèse-là, c'est que elle s'adapte à toutes les situations.
Toutes les situations. Une chose, alors on va entendre. Il y a eu des soutiens, bien sûr, de la part des Républicains, et peut-être avez-vous été surpris par cette classe politique qui commentait assez peu finalement cette garde à vue. Et Nicolas Sarkozy a reçu un soutien assez étonnant quand on se rappelle finalement des propos que pouvait tenir ce parti sur les Républicains, comme sur le Parti Socialiste, c'est le soutien de Marine Le Pen. En effet, on va l'entendre et écouter ce qu'elle a dit justement à propos de cette garde à vue de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.
Quelque chose que je trouve éminemment dérangeant, c'est le fait que Nicolas Sarkozy, mais il n'est pas le seul, se retrouve, quelle que soit l'affaire qu'il concerne, devant le même juge d'instruction. Est-ce qu'il n'y a que deux ou trois juges d'instruction en France ? Oui. Je pense que c'est dérangeant, c'est gênant. Et ça pose tout de même un certain nombre de questions.
Audrey Goutard, quand vous entendez Marine Le Pen, est-ce que toujours le même juge ?
Oui, non, enfin, il y a un parquet financier avec des juges qui sont extrêmement expérimentés. Après, on peut. Mais c'est une façon, je trouve, de jeter l'opprobre sur la justice. Ouais, laisser imaginer qu'effectivement, ces juges, ce ne seront pas leur boulot, alors qu'ils ont été nommés pour leur connaissance et leur capacité à faire ce boulot. Après, je ne préjuge pas de leur objectivité, etc. Mais bon, c'est pas anormal qu'on tombe à peu près sur les mêmes noms dans une discipline aussi compliquée que celle-ci.
Donc, elle plaide pour sa paroisse, oui, surtout Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a quelques casseroles accrochées à sa veste et c'est effectivement les mêmes juges qu'elle rencontre à chaque fois qu'elle est convoquée.
Eric, je voudrais quand même parler un peu de ça parce que c'est très joli de dire la justice, on touche à la justice, etc. Le juge Tourneur, encore une fois, je ne préjuge pas du résultat, le juge Tourneur est quand même le syndicat de la magistrature et le mur des cons. Dans le mur des cons, il y avait quelqu'un qui était en vedette, qui était Nicolas Sarkozy. Mmh. On a vu cette histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était à l'affaire Bettencourt, il était un peu partout. On ne peut pas dire, et la seule chose, moi, de ce point de vue, je crois que Marine Le Pen n'a pas totalement tort. Il y a quand même plusieurs juges compétents en France. Pourquoi c'est toujours le juge Tourneur qu'on retrouve avec Sarkozy? Il y a quand même d'autres juges compétents. Deuxièmement, il y a le problème
peut-être
du temps.
Peut-être parce qu'il est peut-être un peu moins complaisant que d'autres juges qui ont jugé Nicolas Sarkozy auparavant.
Oui.
On peut aussi le tourner de cette manière-là.
Non, mais on peut aussi dire qu'il y a quand même un véritable problème avec Sarkozy et avec d'autres. Mais il y a aussi un autre problème. Moi, je suis très frappé pour voir, et on va pas reparler de l'affaire Fillon, c'est les temps de la justice. C'est très très bien, chacun fait ce qu'il veut, après tout, les juges font ce qu'ils veulent. Mais il y a des affaires, comme par hasard, qui foncent et qui prennent quelquefois 7 ans, ou qui vont très très vite, et d'autres affaires qu'on enterre jusqu'à la prochaine élection. Et je ne veux pas citer d'affaires, vous les connaissez comme moi, mais je suis très frappé de la manière des deux poids et deux mesures.
André Berkoff, quel serait l'intérêt, puisque c'est le même parti, donc c'est pour ça,
je pose un problème très simple. L'affaire Jean-Jacques Urvoas, Thierry Solaire.
Oui.
On le sait, on a parlé, Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, qui renseignait Thierry Solaire sur une possible poursuite. L'affaire a été classée. C'est quand même bizarre. Excusez-moi, je peux en vous citer 4 ou 5.
Ça, c'est cette petite musique qui est distillée à chaque fois. Mais petite c'est musique. Valable. C'est valable pour la gauche comme pour la droite, comme pour l'extrême droite, qui est
mais
que la justice,
qui est que
la justice est instrumentalisée en France et qui fait qu'au final, il se passe quoi? Il se passe que jamais ces affaires n'aboutissent et que quand elles aboutissent, ça prend des années. C'est aussi ça. C'est-à-dire, faisons confiance aux juges, faisons confiance à la justice française. On est dans une démocratie. Il y a des mécaniques pour vérifier que la justice fonctionne bien. Là, vous rentrez dans le jeu des politiciens.
Non, mais
Eric,
pas du tout. Et vous rentrez dans le truc des juges. Je vais vous dire pourquoi.
Vous parliez de justice sereine tout à l'heure. Vous pensez qu'avec des propos comme ça, la justice en France, elle peut être rendue sereinement.
Mais je vais vous dire pourquoi la justice ne peut pas être sereine. Je vais vous dire pourquoi, et vous le savez comme moi. Tant qu'il y aura, et ils le disent eux-mêmes, les juges, le parquet, je dis bien la magistrature, le parquet, dont la carrière est dépendante du ministère de la Justice et du gouvernement, ne me parlez pas de justice sereine. C'est clair.
Pas du parquet, on parle des juges d'instruction.
Attendez, Audrey Goutard.
Je parle pas du juge d'instruction, je parle de la magistrature.
Vous parlez du juge Touraine, vous parlez du juge d'instruction.
Voilà, alors.
D'accord.
Audrey Goutard,
je ne mets pas en cause l'indépendance.
Vous allez y arriver, Audrey, vous inquiétez pas.
Non, mais ce qui est intéressant, dans les propos qu'on entend, c'est que c'est des propos, effectivement. Non, il y a des questions. Moi, je dirais qu'il y a pas, je dis pas qu'il y a un problème, mais effectivement, il y a des questions. Parce qu'en fait, la justice, pourrait dire qu'il y a deux couches et deux calendriers. Il y a d'abord le calendrier de l'enquête. C'est récupérer un maximum de preuves, etc. Le travail, le boulot des enquêteurs, etc. On voit très bien dans cette affaire, que ce soit Big Malion, que ce soit l'affaire Bettencourt aussi, etc. La difficulté de ramener des preuves, des éléments matériels. Donc ça, c'est ces enquêtes en long cours. Et vous avez raison de dire qu'on n'en voit pas le bout et on ne voit pas le procès arriver. Et quand il arrive, tout le monde s'en fiche. En fait, dans le fond, soit les hommes politiques ont démissionné, soit ils sont ailleurs, soit ils font un autre boulot. Et puis, il y a autre chose, c'est cette espèce de calendrier des juges, d'opportunité des actes judiciaires. L'intérêt, par exemple, d'aller organiser des perquisitions chez Fillon juste avant les élections. L'intérêt de mener certaines opérations, etc. Et là, effectivement, on peut noter la proximité des chancelleries et des différents parquets. Et ce calendrier-là, il est souvent politique.
Il est politique parce que le contexte aussi est politique. C'est la campagne présidentielle. Marine Le Pen dit la même chose sur les assistants parlementaires.
Oui, mais il y a un moment,
on va pas tout arrêter parce qu'il y a une campagne politique aussi.
Vous avez raison. Mais on accélère ou pas? Et là, on peut imaginer qu'effectivement, il y ait un détonateur politique qui fasse que on va faire une perquisition là ou on ne va pas la faire. Mais en revanche, voilà, il y a
Cécilia Gavison.
Quel serait le calendrier politique concernant Nicolas Sarkozy? Aujourd'hui, dans la configuration actuelle où on a Emmanuel Macron président, quel serait le calendrier politique?
C'est vrai qu'on s'est tous posé la question. Mmh. Nous, journalistes, on se demande pourquoi, effectivement, cette garde à vue intervient maintenant.
8 ans après. En tout cas, le calendrier politique pour Fillon, il existait, hein, vous êtes bien d'accord.
Heureusement qu'on n'a pas élu un président de la République.
Heureusement ou pas, là vous faites des jugements de valeur. Moi, je ne regarde pas ça, pardon, Eric. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas dire, vous dites la justice sereinement. Il n'y a pas la justice, il y a des juges, les juges sont des hommes comme des autres, avec leur conditionnement comme des autres, comme les avocats, etc. Moi, ce que je reproche, c'est sur le fond, c'est le temps de la justice. Je remarque qu'il y a une justice avec des temps longs et une justice avec des temps courts, et ça n'a rien à voir avec la complicité de l'affaire.
À partir du moment où ces juges s'attaquent à des politiques, et encore une fois, que ça soit des politiques de gauche, je me souviens de Cahuzac, les arguments étaient exactement les mêmes, que ça soit des politiques de gauche, de droite ou d'extrême droite, de toute façon, à partir du moment où ils s'attaquent à ces gens-là, c'est de la manœuvre politique. Moi, on parlait de Fillon, des assistants parlementaires. Alors, Marine Le Pen a parlé de temps politique, mais enfin c'est elle qui a porté plainte contre Bayrou et De Sarnez, et c'est elle qui a fait que ces deux hommes politiques, enfin deux hommes et femmes politiques, ont été démissionnés du gouvernement. Il était où le temps politique? C'est-à-dire que quand ça leur sert, les politiques, ils usent de cet argument pour eux, et quand ça leur sert pas, ils en usent contre les autres.
Oui. Allez, on va continuer, on parle dans un instant justement sur le côté politique aussi de cette affaire, l'info à 20h20, Diane Ferchit.
Que vont décider les juges à Nanterre? Nicolas Sarkozy l'aurait présenté à l'issue de sa garde à vue. Elle a pris fin en début de soirée. Les magistrats doivent se prononcer sur la suite de la procédure. L'ancien président de la République est suspecté d'avoir eu recours à des financements de la Libye pour sa campagne électorale de 2007. Le premier test social d'envergure pour Emmanuel Macron demain. Des manifestations et des grèves, des fonctionnaires et des cheminots. Les syndicats de la SNCF opposés à la réforme de l'entreprise ferroviaire s'attendent à un cortège d'au moins 25 000 personnes à Paris. La mobilisation s'annonce forte. Seul un quart des intercités, la moitié des TER et 30% des trains d'Île-de-France circuleront, 60% des TGV seront supprimés. Une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du net, l'Union européenne lance une offensive pour mieux taxer Facebook, Google ou encore Amazon, avec pour objectif de récolter 5 milliards d'euros par an. Pour mettre en œuvre cette proposition, Bruxelles va devoir convaincre l'Irlande, les Pays-Bas ou encore le Luxembourg, accusés de tirer profit de la situation. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait au moins 33 morts à Kaboul. La plupart des victimes sont des adolescents. Ils célébraient le Nouvel An perse devant l'université de la capitale afghane. C'est la 5e attaque commise à Kaboul en l'espace de quelques semaines.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, alors quelle sera justement la décision des juges? Elle est attendue d'une minute à l'autre concernant la fin de la garde à vue de Nicolas Sarkozy après près de 25 heures de garde à vue concernant un possible financement de sa campagne de 2007 par l'argent libyen de Kadhafi. Mais ça a aussi des conséquences politiques depuis hier, et il y en a qui est... Il y a une réaction assez étonnante et presque assez amusante, c'est celle de Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal, elle a tweeté quelque chose. Je suis suis interrogé sur l'affaire Nicolas Sarkozy et je voudrais dire ceci, malgré des conditions difficiles, la justice avance. Ma pensée va aux millions de citoyens qui ont le droit de savoir si le match était à armes égales, hashtag République, hashtag Ordre Juste, hashtag 2007. Et oui, puisque Ségolène Royal était la candidate face à Nicolas Sarkozy. En 2007, Cécile Gabizon, elle ne lâche rien, décidément, Ségolène Royal.
Non, alors, moi aussi, ça m'a fait plutôt rire ce tweet. On refait le match, en fait.
C'est ça, exactement. Ouais.
Mais ça poursuit un peu la discussion qu'on avait sur le temps politique et sur la façon dont les choses se sont passées et que la justice ne corrige pas ce qui s'est déjà produit à un moment. Mais elle est, Ségolène Royal, effectivement, elle lâche rien et on se souvient que ça a été une époque assez disputée. Alors, est-ce que l'argent a fait la différence dans cette campagne?
On verra, en tout cas.
Elle oublie de dire que c'est le PS qui lui a fait perdre la campagne de 2007.
Oui, parce que la violence, en effet, des propos, surtout, venait du PS. Une chose, André Bercov, est-ce que vous pensez que le retour aux affaires, pour reprendre le titre de Libération aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est embarrassant pour les Républicains ou pas, d'avoir ce vieux fantôme qui traîne comme ça pour eux?
Écoutez, c'est un peu embarrassant, c'est clair. D'ailleurs, vous avez dit que les Républicains ont fait bloc derrière leur ancien leader. Le bloc était un peu fissuré.
Ah, oui.
À la Juppé, on ne peut pas dire que c'était un enthousiasme délirant. Et quant à Laurent Wauquiez, il faut le dire aussi, il a attendu quelques heures en disant « oui, c'est pas bien
c'est
la
humiliant,
garde de
voilà,
ça.
Humiliant.
Humiliant, mais on ne peut pas dire encore une fois qu'il a dit « mais c'est honteux,
d'accord.
Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a à faire là ?» etc. Attention, c'était mesuré. Pourquoi ? Parce que après le tsunami Macron, je dirais la division de certains qui sont partis chez Macron, d'autres qui sont encore chez Wauquiez, c'est très difficile. Ce parti est en train de se reconstituer, donc il se demande encore si la statue du commandeur, on doit encore la défendre ou pas. C'est pas évident.
C'est tout, en plus, surtout qu'on retrouve beaucoup d'anciens sarkozystes autour de Laurent Wauquiez, notamment Brice Hortefeux, qui a été entendu en auditeur libre.
Une chose. Et ça s'est très mal passé entre Sarkozy et Wauquiez dans leur dernier déjeuner.
Exactement. Voilà. Et on se souvient aussi de Savon qui avait passé Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez après ses propos tenus à l'EM Lyon. Si on élargit un petit peu le sujet, on se demande finalement quelle campagne s'est déroulée normalement, parce qu'on ne sait pas encore pour 2007, mais en 2012, il y a l'affaire Pygmalion. En 2017, l'affaire Fillon ou l'affaire des assistants parlementaires du Front National. On a l'impression tout de même, Audrey Goutard, que malgré ces efforts de transparence, il y a quand même toujours derrière une volonté d'aller chercher des financements parce qu'il n'y en a jamais assez.
Oui, mais de toute façon, au jour d'aujourd'hui, le financement d'une campagne, les campagnes demandent de plus en plus d'argent. Et effectivement, c'est tout le problème. J'entendais ce matin un chroniqueur qui disait, qui expliquait effectivement, je trouvais son propos intéressant. Il disait autant on comprend la nécessité de voir d'où viennent les fonds. Après, il y a le problème de la quantité d'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions pour battre la campagne et pour lancer ces campagnes. Donc, comment faire? Et ça pousse évidemment les partis et les candidats à laisser travailler des équipes qui ne sont pas toujours, qui sont sombres.
Il y a des initiatives intéressantes aux États-Unis là-dessus, parce que justement, il y a des candidats qui se sont présentés en disant « moi, je ne suis pas financier en gros ». Donc, ils avaient des petites campagnes qui étaient beaucoup moins dotées, mais quelque part, qui le revendiquaient comme un signe d'honnêteté. C'est-à-dire que aujourd'hui dans les campagnes américaines, le gros du staff cherche de l'argent.
Surtout, il n'y a plus de plafond maintenant. Voilà. Puis surtout, il n'y a plus de plafond.
Le gros du staff cherche de l'argent, c'est-à-dire que toute l'énergie, les meilleurs cerveaux sont dédiés à trouver de l'argent pour la campagne. Et il y a eu finalement un argument politique qui était de dire « nous, en fait, on ne va pas faire ça. On va dédier les meilleurs cerveaux à de l'action politique et à formuler des propositions. » Et ça pas si mal marché, c'est parmi les démocrates notamment. Ça n'a pas si mal marché. Alors bien sûr, on peut nous traiter de naïfs, mais je ne crois pas. Je crois que moi, je défends toujours les voix citoyennes. Je pense que à terme, cette demande de transparence, et c'est un petit peu comme pour les marques, où on nous faisait payer la propre pub que les marques se font pour elles-mêmes. En fait, ça se répercute dans le prix, c'est-à-dire on paye plus cher des pâtes pour avoir une pub qui nous vende cette marque de pâtes. En fait, il y a un moment où on ne va plus avoir envie de ça. Voilà.
Et on n'en est pas loin. Éric Pétou.
Surtout pas vous traiter de naïf. je crois plus à donner un vrai rôle, des vrais pouvoirs, notamment d'investigation, à la Commission nationale des comptes de campagne, que sur la bonne volonté des partis politiques. Non, mais c'est ça le problème.
Il peut y avoir des positionnements.
S'il y a eu Pygmalion, s'il y a eu ou pas Karachi, il y a des financements occultes, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'organisme de contrôle des
Il y en a, mais on se rend compte à quel point c'est le foutoir. Récemment, on l'a vu encore.
Récemment, il y a un des sages qui a démissionné en disant que, grosso modo, il ne pouvait rien faire.
Surtout qu'on sort quand même une période magnifique. Rappelez-vous la France à Afrique et les surfacturations, avec les fausses factures qui arrivaient avec F Gabon. C'était magnifique, c'était organisé à gauche comme à droite. Ça savait aussi bien le Parti Socialiste que le RPR. C'était absolument organisé pendant 30 à 40 ans. Vous avez des émissaires qui partaient et qui rentraient non seulement avec des valises, avec des enveloppes, etc. On est sorti Apparemment, j'en sais rien. Mais ce que dit Audrey Coutard, c'est vrai, il faut beaucoup d'argent. Et moi, je crois que pour sortir de l'hypocrisie, mais il faut sortir des 7 500 € et des histoires de plafond, qu'on dise les choses.
C'est-à-dire que pour vous, c'est trop bas, en fait. Voilà,
c'est évident. Mais attendez, c'est comme la prohibition. À partir du moment où on leur dit, vous pouvez pas dépenser plus que ça, ils vont chercher ailleurs.
Oui. Quel qu'il soit. Si on met la police nécessaire pour contrôler ces dépenses de campagne, bien sûr qu'on y arrive.
Ça fera rien.
Néanmoins, on voit quand même qu'aujourd'hui, vous parliez de France Afrique, etc., où il y avait des systèmes extrêmement organisés avec des fausses factures, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'il est compliqué quand même de trouver ce genre d'intermédiaire.
Bien sûr.
Lorsqu'on regarde des djouris ou des takedines, c'est un peu les bras cassés de la France Afrique.
C'est pour ça que, alors, tout en étant un peu moins naïf, c'est pour ça que je pense quand même que la culture. Mais j'aime bien, c'est mon rôle. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a finalement, en tout cas, on les découvre, c'est-à-dire que ça passe entre les mains de la justice. Alors, c'est peut-être pas d'idée, on aimerait mieux que ce soit préventif. Avant, mais il y a des enquêtes, ils savent que, et même la garde à vue, on ne sait pas ce que ça va donner, mais quelque part, c'est peut-être de l'acharnement, mais c'est des signaux envoyés qui est que la justice, en gros, vous surveille à un moment ou à un autre.
Voilà, alors, donc on vient de l'apprendre, en tout cas, Nicolas Sarkozy donc, est rentré chez lui, hein, on voit des images, pour l'instant les juges ne sont pas encore positionnés, on va continuer à parler, alors... On va attendre, en tout cas, on va parler aussi de l'autre événement qui sera demain, c'est la grosse semaine sociale qui commence. Voilà, les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Vraiment ? Ça s'appelle Vraiment ?
Oui, Vraiment, c'est le nouvel hebdomadaire vraiment sérieux, vraiment curieux. Chaque mercredi, on vous informe sur les vraies transformations de notre époque, France, monde, culture, 84 pages pour vous informer vraiment. En couverture du numéro 1, WhatsApp, l'application qui réinvente les relations avec nos proches.
Vraiment, en vente chaque mercredi. AXA.
Allô ? Oui, je suis votre porte-monnaie.
Pardon ?
Je vais être cash. Je me sens vidé en ce moment, mais j'aimerais vous parler d'une offre juteuse qui devrait faire nos affaires.
Dans la vie, un porte-monnaie a rarement de bonnes nouvelles à annoncer. Mais pendant les additions gagnantes d'AXA, si vous souscrivez un contrat auto et un contrat habitation, AXA vous rembourse 6 mois d'assurance habitation.
Je suis plein de ressources.
Offre valable du 8 janvier au 30 avril 2018. Conditions en agence ou sur axa.fr/addition-gagnante. AXA.
France Info Météo, avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Avec des descentes de nuages venues du nord, le ciel va devenir de plus en plus encombré demain. D'abord au nord de la Seine, demain matin, avec quelques gouttes possibles, voire un peu de neige près des frontières ardennaises. Demain après-midi, les nuages et pluies faibles et éparses vont s'engouffrer jusqu'au bassin parisien, à la Bourgogne et au Doubs, avec un peu de neige des 300 mètres d'altitude. Entre la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, jusqu'au Lyonnais et au Jura, les éclaircies du matin vont se réduire demain après-midi. Ce sera mieux en Bretagne et près de l'Atlantique, le long des Pyrénées et des Alpes aux régions méditerranéennes, avec un soleil plus présent, bien que parfois voilé. Dans le sud-est, il faudra quand même composer avec beaucoup de vent. Attention au froid demain matin, avec des gelées quasi généralisées, un mercure descendant jusqu'à moins 6 degrés. Les maximales resteront fraîches pour la saison, variant de 4 à 15 degrés.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Laurent Sénéchal, bonsoir.
Bonsoir à tous. Fin de garde à vue pour Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président a été entendu pendant plus de 24 heures en tout à Nanterre, dans les locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire. C'est là que nous retrouvons Emmanuel Leclerc en direct. Emmanuel, les juges d'instruction en charge de l'enquête se sont rendus sur place.
Oui, Nicolas Sarkozy, entouré de ses gardes du corps, est reparti à 20h10 ce soir précisément des locaux de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire. On a pu très furtivement apercevoir un ex-président de la République, les traits tirés. Il n'était pas accompagné de son avocat Thierry Herzog. On sait que les juges d'instruction en charge de cette affaire, les trois magistrats, sont venus ici même lui notifier la fin de sa garde à vue. Ce que l'on ne sait pas encore en revanche, c'est ce qui a été décidé, ce qui a été notifié à l'ex-chef d'État, s'il y aura ou pas une éventuelle suite judiciaire, à savoir par exemple une mise en examen de Nicolas Sarkozy.
Emmanuel Leclerc en direct de Nanterre, merci à Raymond Alboui pour les moyens techniques. La grève a déjà commencé à la SNCF, des premiers trains sont supprimés depuis 19h ce soir, soyez attentifs. Les cheminots sont appelés à une grève perlée à partir du 3 avril, mais demain déjà UNSA et Sudrail appellent à débrayer aux côtés des fonctionnaires. D'après les prévisions trafic, 40% des TGV rouleront demain. Seulement un quart des intercités, la moitié des TER, les contrôleurs aériens sont eux aussi appelés à la grève, si bien que 30% des vols sont supprimés. Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles présenté tout à l'heure par le gouvernement, il prévoit d'allonger à 30 ans les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Un délit d'outrage sexiste serait aussi créé. Ce texte est déjà critiqué par le principal syndicat de magistrats, l'USM, qui évoque une nouvelle loi inapplicable et incohérente, susceptible de susciter la déception des concitoyens. Londres et Moscou continuent de s'écharper après l'empoisonnement d'un ancien espion russe dans le sud de l'Angleterre. Le Royaume-Uni n'enverra ni membre de la famille royale, ni membre du gouvernement au Mondial qui commence en juin en Russie. Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, compare même l'événement au JO organisé par les nazis à Berlin en 1936. Sortez de votre mentalité insulaire, répond Moscou. Le président Emmanuel Macron se rendra aux États-Unis dans 2 mois. Il a été invité aujourd'hui à s'exprimer devant le Congrès américain. La visite d'Emmanuel Macron sera la première d'un chef d'État étranger depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2016. Les informés de France Info, bientôt 20h33, vous retrouvez Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils naviguent un petit peu sur le marigot de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions, Éric Métou de L'Express, Cécilia Gabizon de Media Makers et André Bercoff, écrivain, journaliste et même sur une web TV, lafrancelibre.tv. En attendant d'en savoir davantage sur ce qu'il se passe du côté de Nanterre, où puisque Nicolas Sarkozy a été libéré donc de sa garde à vue, il est rentré chez lui. Pour l'instant, les juges n'ont pas encore fait de déclaration publique. On va parler de l'autre actualité qui nous attend demain tous ensemble, puisqu'il y a une forte mobilisation sociale avec de nombreuses manifestations à travers toute la France. Tous les parfums de la fonction publique seront disponibles, puisque 7 des 9 syndicats de fonctionnaires ont appelé à une grève générale. Les contrôleurs aériens ont également appelé à manifester, entraînant l'annulation de 30% des vols aux aéroports, notamment de Roissy, Charles de Gaulle, Orly et Beauvais. Les agents de la RATP joindront aussi au cortège, tout comme les retraités qui avaient manifesté déjà le 15 mars. Du côté de la SNCF, les prévisions de circulation prévoient 40% des TGV, 25% des intercités, 50% des TER, tandis que 30% des trains d'Île-de-France rouleront. Un apéritif avant la grève de 2 jours sur 5 à partir du 3 avril. Mais pourquoi une telle grève? On ne comprend pas vraiment, selon Jean-Claude Delarue. Il est président de l'Association des usagers des transports en commun.
Le gouvernement avait très bien commencé il y a quelques semaines en disant que si les trains du quotidien marchent mal, c'est parce que pendant des dizaines d'années, on a donné la priorité à des grands travaux, des grands projets comme les TGV, et maintenant ça va changer. Donc nous pensions que la réforme de la SNCF, ça consistait à dire, eh bien maintenant on va s'occuper des trains du quotidien. Or, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver un chiffon rouge, c'est-à-dire la mise en cause du statut qui est bon ou qui n'est pas bon, c'est un autre problème. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une grève à l'heure actuelle sur un thème secondaire comme la question du statut? C'est la question qu'on pose.
Ah, Jean-Claude Darude, de l'Association de défense des usagers des transports en commun. C'est ça, Gabizon, vous pensez que cette mobilisation que les syndicats ferroviaires de cheminots annoncent forte, vous pensez que ça peut faire bouger le gouvernement ou au contraire le conforter?
Oui, je pense que ça peut faire bouger le gouvernement. En fait, les grèves, alors les mouvements sociaux marchent quand même. Je sais pas si on peut tirer un bilan comme ça général.
Que mais jusqu'à présent cette année, ça a pas été ça.
Non, mais ça ouvre des discussions et ça rebat les cartes en fait de la façon dont on discute. Hélas, je crains que ça puisse marcher parce que globalement, par contre, en tant que usagère, je suis un petit peu inquiète à l'idée de cette énorme, de cette immensissime grève qui ne va jamais s'achever.
À partir du mois d'avril, c'est ça. Deux jours sur cinq,
avec tout d'un coup ce courrier que l'on découvre, ce courrier presque trop parfait d'un syndicaliste qui expliquerait que l'objectif serait de mettre le bordel, de rendre les choses inorganisables. C'est-à-dire, c'est un peu le courrier complotiste par excellence.
Ça, c'est le Parisien qui a révélé ça. Ouais. En fait, j'explique juste, excusez-moi, Cécilia, c'est un email en fait interne que la CGT cheminot aurait, je dis bien, envoyé à ses militants qui annoncent vouloir perturber au maximum la circulation des trains tout en limitant l'impact financier pour les grévistes. Voilà, c'est ça en fait. Ça serait de continuer malgré le fait que ça soit 2 jours sur 5 en fait.
Voilà. Alors en attendant les fameux 2 jours sur 5, il est clair que ça va totalement désorganiser le trafic et donc pénaliser très gravement tous les usagers. Alors, ça va être finalement, c'est l'équivalent d'une grève dure et durable, parce qu'ils l'ont organisée pour pouvoir tenir. Donc oui, je pense que ça va faire évoluer. Alors maintenant, la question, c'est sur quoi est-ce qu'il faut évoluer dans cette discussion? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la société française, je pense, a aussi évolué dans sa façon de percevoir la SNCF et le fameux statut des cheminots dont on sait tous un petit morceau, quelque chose, etc. Qui est-ce qu'on peut encore... Aujourd'hui, on avait créé le statut des cheminots parce que ça répondait à des conditions de pénibilité. Quelles sont les professions aujourd'hui qui répondent à ces conditions de pénibilité? C'est-à-dire, quel serait le nouveau statut des cheminots? Est-ce qu'on a encore la possibilité de créer des statuts spécifiques qui correspondent à la pénibilité du travail?
Éric Métou, vous vouliez réagir tout à l'heure sur...
Non, juste sur les deux jours de grève sur cinq, il n'y avait pas besoin du mail de la CGT. CGT tout le monde sait très bien que deux jours de grève sur cinq, c'est quatre jours de grève sur cinq. Là, voilà, on a une grève qui commence demain, elle est déjà partie à 19h, et de toute façon, il y a une journée derrière de remise en route. Donc ça, c'est très conscient, la direction le sait, les syndicats le savent, et effectivement, si ça part comme ça, s'il y a des grèves pendant plusieurs semaines de deux jours sur cinq, ça va être des grèves de quatre jours sur cinq, en plein milieu de semaine, et ça va être un vrai bordel.
André Percoff, on voit bien ce qui peut se passer, c'est maintenant, c'est une bataille au niveau de l'opinion. Est-ce que finalement, il y a un moment où aussi les usagers, c'est là-dessus les syndicats disent, eh bien, faites un geste parce que nous, on en a assez
d'avoir. On va regarder peut-être le paysage, peut-être plus général.
Dites-moi.
Ce qui va se passer. C'est formidable parce que, en fait, le régime a gagné. Je m'explique pas le régime Macron. Il y a un clergé, une noblesse et un tiers-état, vous savez, depuis quelque temps.
Oui.
C'est pas nouveau.
Ce qu'on appelle l'ancien régime.
Le clergé, il est toujours là, fonctionne extrêmement bien. La noblesse, mieux que jamais. Le tiers-état, lui, ils ont réussi à le fendiller, à le casser et à le fissurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens comme les cheminots et autres, d'ailleurs les employés de la SNCF et autres, qui se plaignent à tort ou à raison de leur statut. Et vous avez les usagers, qui font aussi partie du tiers-état pour les trois quarts, qui, eux, en ont marre, parce qu'ils ont envie, ils savent que quatre jours sur cinq, etc., ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire de façon formidable, et encore une fois, depuis des années, c'est pas nouveau, mais il faut avoir ça en tête. On a réussi à fissurer complètement du tiers-état. Et donc, ça va y avoir des grèves, ça ne va rien changer. Ils vont arriver, je crois que Macron va arriver à changer le statut des cheminots. De ce point de vue, d'ailleurs, il faut se poser la question, vous l'avez posée, est-ce que la retraite est 50 ans pour eux, c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Je ne prononce pas là-dessus, je suis pas cheminot, je ne sais pas la pénibilité des cheminots, donc on va pas se prononcer là-dessus. En revanche, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que ce qu'on appelle le peuple, on peut appeler encore le peuple, il est vraiment complètement fissuré.
Alors Audrey Goutard, il y a quand même une opération de communication du gouvernement qui est assez intéressante, parce qu'on parle tout le temps du statut de cheminot. Le vrai problème, c'est la dette, et on sait bien que le statut de cheminot, ce n'est pas forcément ça qui plombe. On sait bien qu'il y a eu un problème aussi en France. On a fait trop de lignes de grande vitesse, on n'a pas assez finalement nettoyé les lignes, de seconde zone. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que pour l'instant, le gouvernement acte là-dessus sur le statut cheminot, qui est, en effet, c'est très populaire, cette suppression pour les nouveaux embauchés.
Que disait Delarue, le patron des usagers, est juste, c'est un chiffon rouge qui est agité, etc. Et d'ailleurs, ça semble assez bien fonctionner, puisque vous avez vu ce dernier sondage qui dit que 65% des Français sont aujourd'hui demandent au gouvernement un peu de calmer le jeu et le demandent de réviser sa copie.
C'est ça.
Alors que je vous rappelle que avant que toutes les négociations démarrent, l'idée des négociations démarre, les Français, les sondages montraient que les Français étaient plutôt partants pour réformer le statut des cheminots.
Tout à fait.
Donc là, on a un vrai changement parce que je rejoins ce que vous disiez, cette espèce d'angoisse des gens et que vous manifestez très bien d'ailleurs en vous disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer, 3 mois de grève, etc. Et on comprend effectivement les usagers. Je vous rappelle quand même que c'est 4 millions de personnes par jour qui vont être impactées par cette décision, effectivement, des syndicats et du gouvernement d'une façon indirecte.
D'où cette bataille de l'opinion, en effet, qui peut s'engager. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Diane Ferchit.
Une mise en examen, un placement sous statut de témoin assisté ou aucune suite. C'est à présent au juge de se prononcer après la fin de la garde à vue de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a quitté ce soir l'office anticorruption de Nanterre. Nicolas Sarkozy suspecté d'avoir eu recours à des financements libyens lors de sa campagne de 2007. Le trafic SNCF perturbé dès ce soir à la veille d'une mobilisation nationale qui s'annonce forte. Demain, il faudra compter avec seulement 40% des TGV, un TER sur deux. La grève chez les cheminots qui vient s'ajouter au mouvement des syndicats de fonctionnaires. Plus plus de 140 manifestations annoncées partout en France. Selon son porte-parole, l'Élysée affiche sérénité et confiance face à ce premier grand test social. Et aujourd'hui, ce sont les avocats qui se sont mobilisés contre la réforme de la justice. Elle prévoit notamment de nouveaux tribunaux pour juger les crimes passibles de 10 ou 20 ans de prison. Selon le Conseil national des barreaux, 80% des effectifs ont participé à cette journée justice morte. Le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes présenté en Conseil des ministres, parmi les mesures les plus emblématiques, la verbalisation du harcèlement de rue et l'interdiction renforcée de relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Le gouvernement veut également allonger le délai de prescription des crimes sexuels de 20 à 30 ans. Cet arsenal législatif devrait être voté en mai au Parlement. Et puis en football féminin, dans quelques minutes, les Montpellierennes, les vice-championnes de France, reçoivent Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Elles jouent ce soir le match aller.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, avant d'en savoir un petit peu plus sur Nicolas Sarkozy, sur cette décision justement de la justice à son propos, on continue à parler de l'autre actualité, ça sera demain en effet, puisque demain 22 mars, forte mobilisation sociale à travers le pays. Il est vrai que cette histoire, on s'est focalisé, c'est vrai Eric Métous, sur cette histoire de cheminots, puisque c'est aujourd'hui c'est cette réforme de la SNCF, mais demain ils seront quand même assez nombreux, notamment les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont vraiment l'impression aujourd'hui d'être les mal-aimés en fait de ce gouvernement, rétablissement du jour de carence, ne pas profiter des augmentations. Est-ce que ça veut dire que voilà, Emmanuel Macron et les fonctionnaires, ça ne le fait pas du tout?
Bon, ils étaient les mal-aimés du gouvernement Sarkozy, ils étaient les mal-aimés du gouvernement Hollande et ils sont les mal-aimés du gouvernement Macron. Enfin, je peux pas dire que c'est atavique chez les fonctionnaires, mais il y a cette part-là. Et puis de toute façon, on est dans un pays qui est en crise, qui a une dette énorme. Les seules économies qu'on peut faire, l'essentiel des économies, c'est sur la fonction publique. Oui. Et c'est sur la fonction publique qu'on l'a fait. Après, est-ce qu'on l'a fait bien? Est-ce qu'on l'a fait comme il faut? C'est autre chose. Mais effectivement, et ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, ça date de 74 si on remonte au début de la crise.
Mais André Bercoff.
Faut quand même rappeler que les dépenses de l'État publics sont de 57% du PIB, c'est-à-dire 14% de plus que tous les autres pays d'Europe, pratiquement. Donc, on sait très bien qu'il faut tailler dans les dépenses publiques. Et on le sait, et il y a un gaspillage hallucinant, je ne parle pas des fonctionnaires ou des SNCF spécialement, il faut le faire. En fait, ça, il n'y a pas de choix, que ce soit Macron ou que ce soit quelqu'un d'autre, ils ne pourront pas ne pas s'attaquer à ça, 2200 milliards de dettes.
Et pourtant, on en a aussi besoin, parce qu'on nous parle aujourd'hui de crise dans les hôpitaux, c'est les fonctionnaires, on nous parle de l'armée, de la police, c'est les fonctionnaires.
La fonction publique, ce n'est pas que les hôpitaux, la police et
les professeurs aussi, oui, c'est vrai.
Il y a aussi des administrations pléthoriques, il y a aussi des endroits où on peut faire des économies.
Les observatoires,
il se trouve que
les associations.
C'est facile de parler de la fonction publique. Ouais. C'est un peu comme quand on nous parle de les médias. La fonction publique, c'est des tas de situations très différentes. On va se retrouver un peu dans la même situation que les cheminots. Je pense que les Français, globalement, sont pour une réforme de la... En tout cas, des économies dans la fonction publique, jusqu'au jour où on va leur dire, va y avoir la grève, vous pourrez plus mettre vos enfants à l'école, vous pourrez plus prendre le train, et là, ils vont changer d'avis. On est dans un pays difficile à gouverner de ce point de vue-là.
C'est pour ça que je pense que l'époque, en fait, aujourd'hui, quand même, la question, quand je disais, c'est qui les nouveaux cheminots? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a la place pour avoir des statuts plus privilégiés, des statuts particuliers dans une époque extrêmement dure où le marché du travail est complètement morcelé. Il y a beaucoup de gens qui sont des indépendants dans ce marché du travail, donc ils ne sont pas pris en compte par les structures traditionnelles aussi de soutien. Donc, est-ce qu'on a encore la place pour des politiques spécifiques avec des acquis qui ont été obtenus aussi par des rapports de force ou des rapports politiques? Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui se remet en branle à travers les cheminots. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, ils peuvent le justifier, mais est-ce que les gens qui aident les personnes âgées et qui font des kilomètres par jour, ils n'ont pas un travail extrêmement pénible et ils sont payés 900 euros à peu près.
Sur les EHPAD, notamment.
Aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on doit repenser chaque statut ou est-ce qu'on doit penser un statut global qui permet aux gens d'avoir une protection sociale et de vivre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, dans une société où il y a de la pénibilité partout et de la précarité qui menace les uns et les autres, avoir encore des gens qui, quelque part, donnent le sentiment d'être plus protégés? Est-ce que c'est pas le moment de remettre à plat?
C'est la question des privilèges. Encore une fois, je ne veux pas revenir à tiers état, etc. C'est la question des privilèges. Est-ce que certains ont droit à des privilèges et d'autres non? Et puis deuxièmement, surtout, c'est que, en fait, si on ne fait pas la chose maintenant, vous savez, c'est une question de courage.
Le problème, qu'est-ce que c'est un homme d'État? C'est un homme d'État ou une femme d'État, c'est quelqu'un qui tranche. Mmh. Et à un moment donné, parce que quand vous dites, et vous avez raison, dès qu'on touche à l'heure précarée, les Français vont dire non. C'est clair, ils vont changer, ils vont dire le sondage dit ça et le sondage dit ça. Vous savez très bien que les sondages, ils disent ce qu'ils veulent au moment au gré du vent. Mmh. Le problème, il est que ça va.
Mmh. Non, mais... Certains sont intéressants, des sondages.
Faut, oui, faut pas bien toujours. Sûr.
Quand même une photographie d'un temps
de temps. Vous savez, voilà. rien n'est plus triste qu'une photo usagée. Il ne faut pas oublier.
Ça dépend, aujourd'hui, c'est la mode, c'est bien, vous savez.
Oui, voilà. Je sais, mais pas celui-là. Donc, non, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que s'il n'y a pas des gens qui tranchent dans le vif à un moment donné, ben ça continuera comme ça. Dans 20 ans, on se rendra
compte. C'est peut-être pas forcément une histoire de trancher, c'est une histoire de. Alors, parce qu'effectivement, on dit, il faut faire des économies, parce que cette dette, on la porte tous. Tous, dont les jeunes.
Mais illégalement.
Illégalement, et on a de quoi repenser en fait la façon dont on assure une protection et une vie digne pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des statuts qui ont été acquis dans le passé. Ce qui se passe, c'est pas peut-être pas la question des cheminots en elle-même, c'est pas la question de la SNCF qui est la question de la dette. Mmh. Mais il y a des gens qui ont réussi à obtenir des acquis et les autres non. Donc, est-ce qu'on remet ça à plat pour avoir un système qui est un petit peu plus fluide?
Alors, on l'a appris ce soir aussi, Audrey Goutard. Jean-Luc Mélenchon souhaiterait faire une marche ce week-end en soutien aussi aux cheminots. Et oui, il aime bien marcher aussi, Jean-Luc Mélenchon. C'est bien pour. Il faut marcher de temps en temps, c'est bien aussi. Est-ce que c'est aussi une manifestation politique demain? Parce que pour la première fois, il y aura tous les partis de gauche. Alors, on ne sait pas quelle ambiance il y aura entre ces partis. Il y aura même le Parti socialiste qui souhaite aller manifester. Est-ce que certains pensent en profiter pour essayer de se régénérer?
Évidemment, c'est-à-dire que derrière les syndicats, derrière ce mouvement de colère des fonctionnaires, les partis peuvent se régénérer, je pense notamment et surtout au PS. Mmh. Ça leur permet de se régénérer, ça leur permet d'exister aussi, de se remontrer vis-à-vis de la population, du peuple, etc. Après, je n'ai aucun avis précis là-dessus, mais j'entendais effectivement certains membres du gouvernement qui s'étonnaient qu'avant même qu'on ait commencé vraiment à négocier, il y ait un tel mouvement de fond et autant de manifestations, de marcheurs, des marcheurs de l'autre côté. Maintenant, c'est compliqué de dire en marcheur, de gens qui aiment marcher, quoi.
Oui, c'est ça, voilà, des randonneurs.
Et donc, du coup, est-ce que c'est quand même très français?
Alors, est-ce que c'est ça aussi, Audrey, ou alors il y a aussi une volonté? C'est normal aussi, peut-être les syndicats se sont dit, est-ce qu'on s'est pas un petit peu fait avoir avec la loi travail, la réforme du code du travail, où en fait il y a eu des réunions tout l'été, et en fait tout était écrit auparavant.
C'est ce qu'ils disent, effectivement. Ils défendent leur façon de faire et leur stratégie par ça. C'est vraiment une stratégie bras de fer assez classique.
Oui, c'est ça, Cécile Gabizon.
Non, mais il y a aussi, ça faisait un an presque que c'était un peu tranquille. Je dirais qu'on a une petite tradition de printemps. Mai 68, printemps, voilà. Et que là, en plus, Macron, au départ, il est arrivé, il a déployé son action, il a joué aussi d'un contexte qui lui était favorable, et notamment sur l'opinion. Mais au fur et à mesure, évidemment, l'état de grâce est en train quand même de se suspendre. Mmh. Et donc là, je pense que c'est la démonstration de force de tous les mécontents de l'élection Macron. Et c'est le moment aussi, parce que finalement, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, qui n'ont pas voté. Il y a peu de gens qui ont voté pour Macron.
24% au premier tour.
Voilà. Donc, les mécontents de l'élection Macron. Et là, il y a un moment, en fait, tout d'un coup, on dit, on attaque les fonctionnaires et on n'est pas très sûr de quelle est la couleur globale de l'opinion sur ce sujet. Donc finalement, il y a de quoi remobiliser, parce qu'à chaque fois, à travers des cas spécifiques, les cheminots, les EHPAD, en fait, on arrive à remobiliser autour.
Et surtout, Éric Métou, on a vu des conflits récents, finalement, comme les EHPAD, les surveillants de prison aussi, que peut-être le gouvernement n'attendait pas. Il s'attendait, en effet, sur la réforme du Code du travail, la SNCF, mais là, on a vu, en plus, c'est des choses qui touchent les EHPAD, c'est quelque chose véritablement qui touche les Français. Ça a été difficile à gérer.
C'est une réalité, c'est-à-dire que les conditions de travail dans les EHPAD sont épouvantables, les conditions de travail dans les prisons sont épouvantables. Les gens s'en rendent bien compte, ils sentent bien que c'est pas, je compare pas avec les cheminots, mais que c'est moins structuré. C'est un peu plus authentique.
Allez, dans un instant, on va parler justement de ce 22 mars, mais il y a 50 ans, c'est normal parce que demain on en parlera beaucoup, on ne sait pas si c'est un hasard ou pas choisi par les syndicats. L'info à 20h50, Diane Ferschit.
Nicolas Sarkozy a quitté l'office anticorruption de Nanterre ce soir après une vingtaine d'heures de garde à vue. Les juges doivent se prononcer sur une éventuelle mise en examen. L'ancien président de la République est suspecté d'avoir eu recours à des financements de la Libye pour sa campagne électorale de 2007. Verbaliser les harceleurs de rue, mais aussi allonger le délai de prescription pour les crimes sexuels. Le gouvernement a présenté son projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes 5 mois après le début de l'affaire Weinstein. Des mesures très discutées en amont, comme celle fixant à 15 ans l'âge du consentement sexuel. Philippe Martinez prévoit une très forte mobilisation demain. Le leader de la CGT estime qu'il y aura 140 manifestations partout en France. Une mobilisation de la fonction publique, des retraités et des cheminots. Le trafic SNCF est déjà perturbé ce soir. Seuls 40% des TGV rouleront demain. Comptez également un TER sur deux. Les contrôleurs aériens en grève également, avec près d'un tiers des vols annulés dans les aéroports parisiens. Le gouvernement se dit extrêmement déterminé à poursuivre ces réformes. La tentative d'assassinat d'un ex-espion russe au Royaume-Uni ne peut pas rester sans réponse. Déclaration d'Emmanuel Macron ce soir. Le président de la République s'entretiendra demain de ce sujet avec Theresa May et Angela Merkel en marge du Conseil européen. Moscou a contre-attaqué aujourd'hui. La Russie accuse Londres de mise en scène et de russophobie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, oui, Audrey Goutard, vous vouliez... Attendez, on va juste remettre votre micro, allez-y, je vous en prie.
Pardon, excusez-moi, juste l'information, donc Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens.
Donc,
il est placé sous contrôle judiciaire.
Donc ça veut dire quoi en fait? Quelle est la suite?
La suite, c'est qu'effectivement, les magistrats ont considéré qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour cette mise en examen, qui est pas n'importe laquelle. Enfin, c'est assez lourd, hein. C'est le maximum pratiquement de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ils ont considéré qu'ils avaient suffisamment d'éléments. Donc, là, je ne fais que de la déduction. Mais par rapport à ce qu'on savait avant la garde à vue, c'est qu'ils n'ont pas visiblement que des témoignages. Ils ont, j'imagine, plus, parce que pour mettre en examen pour corruption passive, etc., directement le président, c'est qu'ils ont eu, logiquement, des éléments qui leur permettent de dire que le président Sarkozy savait et a participé activement à cette corruption.
Elle aurait participé.
Attention, bien sûr. C'est une mise en examen. Un mis en examen est évidemment n'est pas le coupable.
Voilà, vous êtes mis à la disposition de la justice.
Ça vous permet d'avoir accès à votre dossier.
André Berkoff, c'est assez lourd. Voilà ce qu'on entend.
C'est ça. Fait lourd. C'est-à-dire de deux choses l'une là maintenant. Ou ils ont des preuves absolument fortes qu'il est ça, parce que ça veut dire. Audrey Goutard, je parle sous votre contrôle, ça veut dire en fait qu'il a participé, il est complice, il savait ce qu'il faisait et qu'il a reçu de l'argent. C'est ça, ou pas,
Audrey?
Mettez dans son téléphone.
Audrey reçoit des informations, c'est pour ça.
Moi, je ne suis pas juriste. Est-ce que, de ce point de vue, la qualification-là veut dire qu'il savait, qu'il a participé ou pas?
Ça veut dire que les magistrats le suspectent. Voilà. Mais être suspect, ça ne veut pas dire être coupable. Donc maintenant, l'enquête va se poursuivre pour déterminer effectivement si ce que suspectent les magistrats est avéré ou pas. Mais elle peut très bien, effectivement, cette enquête se terminer par le fait que non, pas du tout.
Par un non-lieu, ça peut se déterminer tout
seul. Évidemment. C'est-à-dire que c'est un circuit judiciaire. C'est-à-dire que ça n'est pas mettre en cause directement. Ça veut dire considérer qu'effectivement, il y a une suspicion. Voilà, ouais. C'est vraiment ça la mise en examen.
Éric Métou.
Je peux vous faire tricoter l'argumentaire de Les Républicains demain. C'est-à-dire, il a déjà été mis en examen dans l'affaire Bettencourt et il a déjà bénéficié d'un non-lieu. Et ça va tourner en boucle toute la journée.
Je crois que c'est ça, dans les
radios demain. C'est
André,
évident.
André, c'est
Vénus tout entière, c'est Tournaire tout entière à sa proie attachée.
Ah oui, très bien, d'accord. Cécile Guévison, c'est vrai que quand on entend ça, alors ça vient en effet tout juste de tomber, on voit quand même là Nicolas Sarkozy qui pourrait être confronté à des chefs d'accusation très graves. On imagine que ça va continuer et continuer encore. Ça va être difficile pour lui aujourd'hui d'assurer une défense, de dire c'est de l'acharnement quand on est...
Non, je pense qu'il va continuer parce que comme il a déjà bénéficié d'un non-lieu dans d'autres affaires, de toute façon, il va tenir sa même défense. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'a qu'une piste à suivre, c'est de clamer son innocence comme il l'a déjà fait. Donc, il va continuer à défendre ça. Et je pense que la famille de droite va se recomposer discrètement, c'est-à-dire sans l'abandonner, va se recomposer discrètement, comme c'est déjà ce qu'on observe effectivement à travers ceux qui sont partis dans En Marche et puis les autres qui restent proches de l'ancien un chef, mais en même temps volent de leurs propres ailes.
Ce qui est assez étonnant aussi, Audrey Goutard, quand même, cette affaire, pourquoi on la comprend? On a remarqué quelque chose aussi, c'est que il n'y a que des protagonistes, il y a un côté, je dirais presque romanesque, c'est-à-dire on parle du colonel Kadhafi, on parle de Nicolas Sarkozy, elle est assez simple à comprendre cette affaire. Dans les affaires judiciaires, on se rend compte que plus c'est simple, plus on comprend en fait.
Bien sûr, plus l'opinion publique comprend. Alors après, le problème, c'est, si vous voulez, on comprend vite, mais après, il faut le démontrer.
Ouais.
Donc oui, effectivement, vous avez des intermédiaires qui sont pas piqués des hannetons quand on voit.
Ils
sont étonnants, ils sont bavards.
Effrayants aussi.
Il y en a certains qui sont morts aussi.
Oui, tout à fait.
Voilà, morts.
Parce qu'une personne comme Ziad Takieddine, dont vous parliez tout à l'heure, André Berkoff, c'est une personne, c'est vrai, très louche. Ça veut dire que au départ, il disait pour, après il était contre. Enfin voilà, à suivre, c'est très compliqué. Hein.
Moi, je veux dire simplement, j'ai été l'éditeur. Je ne m'en vante pas beaucoup, mais j'ai été l'éditeur de Ziad Takieddine il y a 3-4 ans.
Oui.
Et bien, c'est bien l'affaire après toutes ces affaires. Et je dois dire que j'avais vu son bouquin, etc. J'ai parlé pendant des heures avec lui. Ce qui est intéressant, mais ça ne veut pas rien dire, il ne m'avait pas du tout parlé à l'époque des valises pleines d'argent pour Sarkozy. D'ailleurs, aujourd'hui, il a dit que ce n'était pas pour la campagne de Sarkozy. C'est-à-dire, il dit tout et son contraire, lui. Alors, c'est vraiment ça. En fonction de ses intérêts du moment.
Oui,
il n'a aucune espèce de colonne vertébrale, de foi, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il dit que des conneries. Ça veut dire simplement, franchement, tout ça, ce qu'il faudra voir, c'est les preuves. Et s'il y a des preuves, eh ben, on les... Mais une chose quand même...
Juste
une chose. Pourquoi les Libyens n'ont pas dit ça quand il y a eu l'attaque de Sarkozy sur la Libye? Ils le savaient déjà. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, attaque contre attaque des Libyens en disant « Ce Sarkozy nous attaque, il a reçu du fric ».
J'imagine en tout cas qu'on en saura davantage. Bien sûr, il y aura tous les développements à suivre au cours de la soirée. Merci beaucoup, Cécilia Gabizon, d'être passée ce soir. Merci, Audrey Goutard, pour cette information. Merci, André Berkoff. Éric Métou, la Une de l'Express, cette semaine.
La France de la SNCF, c'est-à-dire le voyage en train vu par les usagers, et où on se rend compte que la France n'est pas égale.
Bien sûr, selon les territoires. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Killy. Bonsoir.
Bonsoir, édition spéciale. Donc, après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, sur le plateau, nous aurons plusieurs invités. Daniel Obono de la France Insoumise, Lionel Cos de La République En Marche, Yann Boucard des Républicains, Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès et bien sûr, toute la rédaction de France Info mobilisée.
Bien sûr, édition spéciale à suivre dans quelques minutes sur France Info.